Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, les évolutions récentes du capitalisme vues à travers l'histoire du Matsutake. Le champignon de la fin du monde qui sert de fil conducteur à Anat Singh dans un essai paru aux éditions de La Découverte. L'anthropologue américaine part à la rencontre des cueilleurs de l'Oregon, puis des consommateurs japonais de ce champignon très prisé et s'interroge sur la valeur aujourd'hui, sur les enjeux écologiques et la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme. Mais avant cela, retour sur l'œuvre d'un des plus grands chorégraphes du XXe siècle, dont on va bientôt fêter le centenaire de la naissance. Un hommage lui est d'ores et déjà rendu au Théâtre National de Chaillot à Paris, qui va reprendre trois de ses pièces, How to Pass, Kick, Fall and Run, Inlets 2 et Beach Birds. On évoque l'héritage de Merce Cunningham avec deux danseurs et chorégraphes qui l'ont bien connu. Robert Swinston et Philippe Boivin sont les invités de la Grande Table jusqu'à 12h30. À écouter en direct sur France Culture et quand vous le désirez sur franceculture.fr.
La Grande Table, Raphaël Bourgois.
Et c'est évidemment Dominique Boivin qui est avec nous. Pardon, Dominique Boivin, je vous ai appelé Philippe. Je vous ai rebaptisé. Je sais pas pourquoi, je me suis trompé, ça arrive. Merci d'être parmi nous. Je disais que vous connaissiez bien Merce Cunningham puisque vous avez été son élève à la fin des années 70. Vous êtes un des chorégraphes aussi qui a importé un petit peu cette danse, cet enseignement de Merce Cunningham. On va avoir l'occasion d'en discuter avec vous et avec Robert Swinston. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'actuel directeur du Centre National de Danse Contemporaine d'Angers, qui fête, lui aussi, c'est aussi son anniversaire, qui fête ses 40 ans. Et à cette occasion-là, vous avez été invité par le Théâtre National de Chaillot à Paris. Vous avez choisi de présenter trois œuvres, je le disais, de Merce Cunningham. Ce sera à partir du 30 mai prochain. Trois pièces, donc How to Pass, Kick, Fall and Run, Inlets 2 et Beach Bird. On pourra aussi voir à cette occasion les jeunes danseurs de l'école supérieure du CNDC d'Angers dans des chorégraphies d'Alvin Nicolaïs, de Dominique Boivin et de Philippe Découfflet. Dominique Boivin qui a décidé, vous avez décidé de revisiter en partie un duo que vous aviez composé et interprété en 1981, je crois. C'était déjà au CNDC, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'était sous la direction d'Alvin Nicolaïs. Donc vous parliez tout à l'heure de Cunningham. Bien sûr, j'ai travaillé avec lui à New York. J'ai pris je suis resté plusieurs mois là-bas à étudier. Et je me souviens aussi d'un stage formidable avec Cage. Mais
John Cage, donc le compositeur et compagnon de Merce Cunningham.
Absolument. Mais j'ai plus travaillé finalement avec le chorégraphe Alvin Nicolaïs,
qui est l'un des héritiers également de Merce Cunningham. Donc tout cela nous donne l'occasion évidemment ici de revenir sur ce moment Merce Cunningham aux États-Unis, évidemment, le tournant des années 50, mais aussi en France, où son influence sur toute une génération de chorégraphes a profondément modifié à partir des années 70 le paysage chorégraphique et nourri ce qu'on a appelé la nouvelle danse française. Robert Swinston, je vais peut-être commencer avec vous, puisqu'il faut parler d'héritage de Merce Cunningham, et vous avez été celui qui avait, après sa disparition en 2009, la charge un petit peu de porter cet héritage pendant deux ans, je crois, de faire tourner des spectacles. C'est quelqu'un qui avait pensé Merce Cunningham très très méticuleusement sa succession, et donc ça pose presque la question, est-ce qu'on peut encore danser Merce Cunningham après la disparition de Merce Cunningham?
Oui, mais je commence à danser avec Merce Cunningham en 1980. À le même temps, Jean Cage, j'étais le directeur musical. Donc, nous avons fait la tournée avec les deux jusqu'à la mort de John Cage en 1992. Après là, je continue à danser avec Merce Cunningham. En 1992, j'ai devenu assistante de Merce Cunningham. J'ai continué à danser, à aider Merce dans tout ce travail. Et après, il a décidé en 2009... la compagnie continue pour deux ans pour une legacy tour et j'ai dirigé la compagnie pendant ce temps. Fin de 2011, la compagnie est fermée.
Donc il n'y a plus de compagnie Merce Cunningham.
Oui. Et maintenant, en 2012, je continue à travailler pour le Merce Cunningham Trust. Et après, j'ai l'opportunité venir à Angers pour diriger le Centre National de Danse Contemporaine. Et partie de mon position est, bien sûr, continue le travail, partager le patrimoine de Cunningham, mais aussi le CNC, c'est une école, c'est avec les diverses techniques et les diverses idées américaines et françaises.
Alors, je le disais, Merce Cunningham a soigneusement planifié l'après, en quelque sorte. Il y a eu la création, et vous y avez participé, Robert Swinston, de ce qu'on appelait les dance capsules, c'est-à-dire des capsules oui. de danse. Il y a à peu près 80 pièces comme ça, pour lesquelles on a tout un appareil chorégraphique. C'est évidemment toujours une question importante dans la chorégraphie. Comment est-ce qu'on note les mouvements? Comment est-ce qu'on note la chorégraphie et pour la transmettre? Cette façon, Dominique Boivin, de n'avoir rien laissé au hasard, c'est quelque chose qui ressemblait bien à Merce Cunningham.
Alors oui, probablement, mais en même temps, il y a beaucoup de chorégraphes qui, avant de mourir, se posent la question de la transmission. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vais transmettre? Est-ce que j'ai envie véritablement que les œuvres me survivent? C'est-à-dire que d'autres s'en emparent? Et c'est pas je ne sais pas, en fait, ça serait intéressant de poser la question directement à Robert. C'est-à-dire la question, est-ce que Cunningham voulait qu'après sa mort, il y ait... à nouveau des chorégraphies, que ça soit joué, que ces pièces soient jouées.
Oui, pour Cunningham, nous avons discuté avec Cunningham pendant les années avant sa mort. Et Cunningham ne voudrait pas d'avoir les autres chorégraphes dans le répertoire, à partager le répertoire avec sa œuvre. Et après, c'est difficile à continuer actuellement parce que beaucoup de soutien pour la Cunningham Company existe avec les créations, avec les co-commissions de théâtre et comme ça. Et sans la création de Cunningham, il était très difficile à continuer comme ça, dans la même manière.
C'est-à-dire de faire vivre le répertoire de Cunningham, c'est plus difficile évidemment quand...
Non, quand il n'est pas difficile parce qu'à cette époque, nous avons 14 danseurs qui ont beaucoup d'expérience avec le travail. Et pendant les dernières 2 ans, nous avons fait 12 reconstructions de Cunningham et fait beaucoup de tournées dans le monde et surtout en France. Actuellement... Pendant les 30 ans, j'ai dansé avec Merce Cunningham. Nous avons fait beaucoup de présentations en France. Plus aux États-Unis.
Comment est-ce que vous expliquez ce lien particulier de la France avec le travail de Merce Cunningham et peut-être aussi spécifiquement du CNDC d'Angers, puisque c'est un lieu aussi qui a représenté le travail de Merce Cunningham?
Oui, maintenant, mais avant. L'assistance de France pour Merce Cunningham a commencé avec le travail de Jack Lang. Et aussi, comme j'ai dit, nous avons aussi Bénédicte Pell, qui était nos agentes. Et nous avons voyagé à beaucoup de villes en France. Et le public en France est très, très positif pour le travail de Merce Cunningham.
Et quand il n'était pas positif, Dominique Pell disait « We begin again », on recommence et on remet
ouais, le métier. Toujours sur... Cunningham, nous commençait encore.
Dominique Boivin, donc, on dit souvent, parce qu'il faut peut-être présenter un petit peu quand même l'œuvre et le travail de Merce Cunningham pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers. On parle de lui souvent comme une sorte d'Einstein de la danse. Il y a un côté mathématique qui est souvent mis en avant, renforcé probablement avec son travail avec John Cage dont vous parliez, donc ce compositeur... ce compositeur, et peut-être aussi par son travail, par exemple avec l'informatique, il avait participé à un logiciel d'écriture du mouvement qui s'appelle Lifeforms. Est-ce que c'est, parce que c'est une critique qui a pu être faite de son travail, est-ce que ça veut dire que le travail de Merce Cunningham, c'est un travail un peu déshumanisé, un peu froid, une danse distante?
On disait ça aussi de Nicolaïs, et je pense que probablement les Américains... comme Nicolaïs ou Cunningham, ce sont des chorégraphes qui nous ont appris à lire que le mouvement n'avait pas besoin d'histoire. En France, on est quand même, enfin on était, peut-être moins maintenant, attachés à la narration. Et quand nous sommes, nous, danseurs, dans les années 70, je me souviens, on était tous très intéressés à l'idée de se dire mais comment on va aborder cette affaire de mouvement sans forcément s'appuyer sur l'histoire. Donc évidemment, Nicolaïs et Cunningham, quand ils sont arrivés en France, ils ont apporté, par exemple en France avec Caroline Carson, avant Nicolaïs, tous ces chorégraphes nous ont aidés véritablement à nous débarrasser en fait des histoires. Et Nicolaïs, par exemple, disait le mouvement est le message. Ça veut dire que d'une certaine manière, on n'a pas besoin forcément de raconter en plus. Le mouvement raconte lui.
Emerge Cunningham en parlait en 1976. C'était sur France Culture, une archivina au Festival d'Avignon.
La force, la flexibilité et le ressort dans l'esprit comme dans les jambes. Le ressort, là, comme en anglais c'est resilience. Le mot resilience, c'est l'idée pour moi, c'est l'idée pas seulement avec le corps, mais avec l'esprit, et avec les yeux, avec les oreilles, et avec l'attention à l'autre danseur, tout le temps. Parce que la danse, on danse comme individuel, mais on danse avec les autres. Et ça, c'est très important. Parce qu'il faut que chaque danseur regarde les autres tout le temps. Regarde pas seulement avec les yeux, mais avec les oreilles, et avec les pieds, et avec le dos et tout ça. Et ça, c'est le ressort pour moi.
La voix de Merce Cunningham, Robert Swinston, c'est intéressant cet extrait parce que quand on pense à Merce Cunningham, on l'a dit, il y a la question de la non-narrativité des pièces qu'il propose, des chorégraphies qu'il propose, mais il y a aussi une question d'indépendance, indépendance de la chorégraphie par rapport à la musique, les deux étaient composés séparément, indépendance des danseurs entre eux qui ne sont pas, qui ne font pas forcément un tout, il aimait bien que le spectateur puisse porter son regard sur l'un ou sur l'autre, indépendance des mouvements même du danseur, on a l'impression que les parties du corps sont indépendantes les unes des autres, et pourtant on l'entend qui dit l'important, on entend Merce Cunningham dire que l'important c'est de bien être ensemble.
Oui, mais pour Cunningham il a dit il n'y a pas possible de séparer le danseur des humains. Il a toujours prononcé, peut-être le public pense le travail est froid, mais actuellement il est humain, parce que quand vous avez un homme et une femme dans son ensemble, il y a une relation. La relation peut être dramatique, peut-être pas.
Oui, vous vouliez réagir, Dominique Morin.
Oui, je crois que probablement en Europe, on est très attaché à l'émotion. C'est comme si on se disait, si on danse par exemple, et forcément il faut provoquer de l'émotion. Et je pense que ces Américains, aussi bien Cunningham que Nicolaïs, étaient attachés au fait de dire que dans le mouvement, il y a déjà l'émotion. C'est pas la peine d'en rajouter. Et en fait, c'est ce que je crois avoir entendu de Cunningham à l'instant, c'est que tous ces danseurs qui sont dans l'espace... connectés ensemble, et on n'est pas obligé d'en rajouter et dire on va faire une histoire de couple ou je ne sais quoi.
Et si on prend un point essentiel donc que je citais assez rapidement tout à l'heure, c'est la façon de composer la musique et la chorégraphie de manière séparée, de façon à ce que il n'y ait pas forcément de lien l'un avec l'autre, que ce soit deux pièces, deux œuvres qui vivent indépendamment l'une de l'autre. En quoi ça a pu Dominique Boivin libérer d'une certaine façon les chorégraphes, le jeune chorégraphe que vous étiez à la fin des années 70, début des années 80?
Je dirais liberté, c'est-à-dire la possibilité au fond de c'est pas rien quand même de tirer au hasard la chorégraphie, tirer au hasard le positionnement dans l'espace, tirer au hasard toute cette affaire en fait de construction et de chorégraphie.
Et c'est pas au figuré, hein, parce que Merce Cunningham tirait vraiment au hasard certains des mouvements
mais
de sa chorégraphie.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a des principes parfois, on établit comme ça des idées préconçues de la chorégraphie, mais quand on tire au hasard, on est surpris de se dire tiens, cette diagonale j'avais pas prévue par rapport à tel ou tel autre connexion. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait la chorégraphie, c'est pour ça que je reparle encore d'émotion et de mouvement, c'est que tout ça contribue à une nouvelle lecture de la danse. On n'est pas obligé de raconter des histoires en disant vous marchez tous les deux, homme-femme, parce qu'il y a une histoire à raconter, mais on va lancer au hasard, tirer au hasard en fait, une relation entre 2, 3, 4, 5, 10 danseurs.
Robert Swinston, sur cette dimension de hasard, vous qui avez, vous l'avez rappelé, dansé avec Merce Cunningham à partir du début des années 80, puis était son assistant, quelle place ça avait, parce que ça fait partie du mythe, hein, Merce Cunningham, tiré au dé ou à pile ou face, tel ou tel mouvement, quelle place ça avait véritablement dans sa façon de travailler?
D'abord, je voudrais dire, quand j'ai arrivé à New York en 1970, mon premier professeur de danse était Gladys Berlin, qui était un danseur avec Howard Nicolai et Mary Lewis. Et après, j'ai dansé avec José Lemon Company et nous avons fait la répétition de le studio de Nicolaïs. Donc, oui. Et il y a une relation vraiment parce que Nicolaïs et Cunningham, forcément, croient que le mouvement d'abord, c'est le message. Et puis, après là, Cunningham commence à créer avec les systèmes par hasard parce qu'il voudrait. Il voudrait pas inclure ses amours et les autres qui n'aiment pas. Et c'est pourquoi je cherche par hasard d'abord avec le coin, le die, et juste à faire les différentes propositions, les différents arrangements. C'est pas nécessaire organique, mais il a trouvé, c'est dans le processus, il a trouvé quelque chose de nouveau. Et il est possible, il a trouvé, c'est possible à faire.
Ce qui est très étonnant, c'est que quand on parlait de ça, je me souviens dans les années 70, les gens disaient bah, si tu au hasard, c'est qu'en fait, il ne sait pas quoi dire. Et c'est tout à fait incroyable, c'est l'inverse. C'est ça qui est incroyable. C'est l'inverse, c'est en fait de se dire bah, ce qui va se passer, c'est quelque chose que je n'ai pas prévu et je laisse en fait la surprise, c'est ce que disait Robert à l'instant, la surprise arriver, c'est-à-dire ne pas chercher à tout contrôler. Et c'est ce que voulait, c'est presque philosophique au fond, là, cette histoire-là. Et c'est ça que je trouve, cette histoire entre guillemets d'ailleurs, parce qu'il ne voulait justement pas en raconter. Et le fait de tirer au hasard, ça permet justement de redistribuer, si je puis dire, cette affaire de chorégraphie, donc forcément de se retirer de cette question de l'émotion qui nous obsède toujours.
You have to get your leg around without bringing it forward. In other words, you have to hold on in your gut and bring your leg around to the side. Let's do it once more.
France Culture, La Grande Table, Raphaël Bourgois.
Un jour, à Black Mountain College, David Tudor était en train de déjeuner. Un étudiant
Dans
est venu à sa table
bouddhisme zen,
et s'est mis à lui poser
on dit,
des questions.
Si quelque chose ennuie au bout de 2 minutes, essayez 4. Si l'ennui persiste...
À Greensboro, Caroline du Nord, David Tudor et moi avons présenté un intéressant programme.
Essayez.
Nous avons joué 5 morceaux, 3 fois chacun. Oui. Klavierstück 11 de Karl-Heinz Stockhausen, duo pour pianiste de Christian Wolf, intermission 6 de Morten Feldman.
Un montage sonore par notre réalisateur Perret Legras de des trois pièces plutôt qui vont être reprises du 30 mai au 2 juin au Théâtre National de la Danse à Chaillot et en partenariat donc avec le CNDC d'Angers qui fête ses 40 ans. How to Pass, Kick, Fall and Run qui est une pièce de 1965 de Merce Cunningham, Inlets 2 qu'il a créé en 1983 et Beach Birds en 1991. Robert Swinston, pourquoi ces trois pièces?
Well... D'abord, j'ai commencé avec la compagnie en 2013 et j'ai commencé à partager le travail de Cunningham avant sa utilisation d'ordinateur. Bien sûr, toutes les danses ont fait avec par hasard, les opérations par hasard. Mais pour moi, à introduire le travail de Cunningham, il était nécessaire travail avec le travail qui Cunningham a dansé lui-même. Oui. Et parce que ce travail est beaucoup plus humain. Et je pense, pour moi, à transmettre ça, c'est plus facile pour des danseurs comprendre la relation avec Cunningham. Parce que d'abord, les danseurs pensent qu'il y a une séparation. Après les années 2015, j'ai fait un programme avec une danse place et avec How to Pass, Kick, Fall and Run. How to Pass, Kick, Fall and Run était une danse très joyeuse, très rigolée, et aussi avec les histoires de John Cage. Mais la relation, il n'y a pas de relation actuellement, c'est séparé. Et l'idée pour séparer la musique et danse a donné le public l'opportunité d'avoir deux choses à le même temps. Aussi avec le décor, est toujours le même, construit indépendamment.
Oui, non, parce que How to Pass Kick, Fall and Run, il faut le dire, ce sont des musiques de John Cage, des textes de John Cage qui sont lus, une succession de petites histoires, et chaque pièce d'une minute est lue par un comédien ou par John Cage. Il y a une vidéo sur YouTube qu'on peut voir de 1967, je crois, oui. Qui est en Hollande. On voit Merce Cunningham danser, on voit John Cage lire les textes. Voilà, les textes lancent en quelque sorte les chorégraphies. Vous avez raison, c'est très frappant. On les voit véritablement rire, sourire. La question de l'humour chez Merce Cunningham qui est toujours une question importante. Alors on a un peu une invitée surprise, Claire Rouzier, puisque vous êtes la directrice adjointe du CNDC. Et je ne peux pas vous laisser être dans le studio sans intervenir. Vous avez levé le doigt il y a 30 secondes, parce que je crois que vous vouliez intervenir sur quelque chose que disait Robert Swinston.
Non, je voulais simplement dire que dans cette idée du hasard, effectivement, c'est un process créatif, nouveau. Donc en soi, c'est pas seulement une solution, c'est vraiment un dispositif, mais qui lui permettait aussi d'échapper à ses propres schèmes moteurs et chorégraphiques appris. C'est-à-dire que c'était une façon de dépasser. Il a quand même été danseur chez Graham. C'était une façon de mettre à distance tout ce qu'il avait traversé et de se donner l'occasion de s'approprier des choses qui ne venaient pas de lui et de les faire siennes. Et ça, c'est tout à fait important. Et dans ce que je pourrais dire aussi concernant donc How to Pass Fall, Quick and Run, et concernant non pas la musique, mais ce qui se passe au niveau sonore, les différents textes de Cage sont chacun d'une minute, mais ils sont tirés au sort, donc l'ordre est tiré au sort, donc il n'y a jamais, si vous voulez, de possibilité d'installer une relation stable entre ce qui se passe sur scène, la chorégraphie est fixée maintenant, et ce qui se passe dans les textes. Donc les rencontres qui se font sont nouvelles à chaque fois et produisent par contre des effets de sens, mais qui ne sont pas contrôlés.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sens. Le hasard ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sens. En effet, Dominique Boivin, cette question de se méfier finalement de ce que son corps a appris quand on est un danseur, évidemment, on a tous l'image de ce que c'est que d'apprendre d'être un danseur. Et c'est la rigueur, évidemment, beaucoup de travail, beaucoup de répétition. Et donc c'est vrai que se départir de tout cela, c'est évidemment très 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 compliqué. Et pourtant, on a le sentiment que Merce Cunningham utilisait ce vocabulaire du corps classique tout en essayant s'en détacher. Quand vous avez dû désapprendre en quelque sorte ce que vous saviez, ça fait quel effet un danseur en quelque sorte?
En fait, c'est très étrange parce que moi je suis un danseur classique, j'ai travaillé de 6 ans à peu près jusqu'à 16-17 ans la danse classique, et ensuite j'ai trouvé que la danse classique m'enfermait, et j'ai eu la possibilité de rencontrer Caroline Carlson. Donc là j'ai appris carrément ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le mouvement et la qualité, et qu'est-ce que ça voulait dire que danser avec pratiquement ses propres mouvements. Mais ensuite il y a eu la rencontre avec Cunningham, et là c'était comme si je revenais au classique, entre guillemets, c'est-à-dire un langage plutôt codé, mais en même temps avec la pensée moderne de cela. Et c'était pour moi, en tout cas quand j'étais dans les studios à New York, travailler cette histoire, c'était une façon d'être libre dans quelque chose quand même de relativement très rigoureux au niveau d'écriture.
On a trouvé une autre archive de Merce Cunningham, il y en a plein hein, si on cherche bien. Celle-ci est de 1991 sur France Culture, et il présente son travail justement comme une peinture.
Un danseur, il se concerne avec l'idée de la fluidité. Un moment, et le prochain moment, il est fixé dans un espace petit avec un autre danseur. Et pour moi aussi, je crois que je cherche presque toujours pour l'idée de change. L'idée de change pas seulement avec le mouvement, mais aussi avec les personnes, les danseurs, pour donner des situations qui différentes. Il est possible pour un spectateur de voir quelque chose différent et de décider quelque chose pour lui-même. Pas quelque chose que je donne, mais je présente une peinture dans une manière. Mais l'idée, je laisse au spectateur de décider.
Robert Swinston. On va terminer là-dessus, parce que c'est un autre élément essentiel du travail de Merce Cunningham. Créer un espace plus qu'une performance, créer un tableau. On sait qu'il a beaucoup collaboré avec des artistes contemporains, Marcel Duchamp, Rauschenberg, Jasper Johns, Warhol. Créer un tableau pour que le spectateur puisse, en quelque sorte, laisser son regard aller là où il veut.
Oui, mais Cunningham est très influencé par Marcel Duchamp et aussi John Cage, par le Zen, par Daisuke Suzuki. Et puis, la relation avec les deux, elles ont trouvé la séparation, permis le public à faire les décisions pour les mêmes. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est possible pour chaque public apprend différemment. Et c'est l'idée. Cunningham ne voulait pas amener le public pour un réseau. Parce qu'il a changé beaucoup tout le temps. Il a changé beaucoup. C'est difficile. Si vous avez les expectations, well, c'est difficile à comprendre.
Dominique Boivin, sur cette dimension du travail de Merce Cunningham qui laisse la liberté, ne pas tenir le spectateur par la main en quelque sorte.
Oui, bah ça continue. C'est exactement la même chose que quand on travaille avec lui. S'il tire au hasard, on n'est pas dans des schémas. C'est pareil pour le public. Il, à chaque fois, il permet une relecture, une réinvention de tout ça. Oui.
Merce Cunningham, en partenariat avec le CNDC d'Angers, Théâtre National de la Danse à Chaillot, ce sera donc à partir du 30 mai jusqu'au 2 juin au Théâtre National de la Danse à Chaillot à Paris. Pour voir vos pièces, Dominique Boivin, ainsi que celle de Nicolas, il s'est découflé, ce sera du 31 mai au 1er juin. Merci d'être passé par le micro de la Grande Table pour rendre hommage donc à Merce Cunningham, dont on fêtera en 2019 les 100 ans de la naissance. Merci beaucoup d'être
passé. Merci à vous.